C'est le premier dimanche après la vénération que nous avons du Sacré-Cœur de Saint-Joseph. On a vénéré le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Le ciel a demandé, en proclamant la résurrection de Saint-Joseph, à un de nos amis qui s'appelle Edson, que le mercredi suivant, donc mercredi dernier, on vénère le Sacré-Cœur de Joseph, qui est le principe terrestre et divin du cœur, de l'amour immaculé incarné de Marie, de l'amour immaculé incarné du coup de Jésus, du Dieu vivant dans l'incarnation. Voilà, c'est le premier dimanche, le 12e. Voilà notre ordinaire. On est emporté par un fleuve dont les horizons sont sans limite et sans fin, à droite, à gauche, devant, derrière, par là, en haut, et au firmament d'en haut et dans le firmament d'en bas. Combien la grâce de Dieu surabonde dans le royaume incarné de l'amour céleste et glorieux, devenu chair, et se répandant sur la multitude des hommes. Dans le monde nouveau, le règne du Sacré-Cœur doit venir, que ton royaume arrive, sur la terre comme au ciel, que l'amour Père soit fait, la terre comme au ciel, à travers le pain eucharistique, à travers la réalité qui va ouvrir tous ces bourgeons dans le temps de la terre. Alors on a aujourd'hui, n'ayez pas peur puisque Dieu est là, n'ayez pas peur puisque le nouvel Adam, puisque Jésus, puisque Dieu dans la chair, dans la nature humaine, c'est vraiment une nature humaine faite avec la terre. De la terre attirée de la glaise, du sol, de la terre. C'est pas un corps éthérique. C'est une nature humaine bien concrète, d'une matière vivante. Alors avec le premier Adam, d'ailleurs, avait été créé avec cette terre. Cette matière inerte devenue matière vivante entre les mains de Dieu, puis enfin matière corps spirituel. Empipé de la grâce de Dieu, de la salive de Dieu lui-même, créateur, Dieu a pris chair. De cette terre-là qui est la nôtre, de cette nature humaine qui est la nôtre. Et il y a du coup un monde unique, essentiel, substantiel, subsistant dans le Verbe de Dieu, dans le Père et dans l'Esprit Saint. Cette subsistance dans la très sainte Trinité qui fait la dignité de la nature eucharistique. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et à un moment donné, quand le temps s'accomplit, tout doit s'épanouir dans le royaume de Dieu, dans la matière vivante de la terre. Dans le temps de la terre, dans le siècle, pour qu'il puisse être universellement absorbé, assumé et glorifié à l'intérieur de plus élevé même que la terre, mais la terre ne disparaissant pas à l'intérieur de l'éternité de Dieu, le temps disparaîtra, c'est tout, mais pas la terre. N'ayez pas peur, puisque chacun de vos cheveux se comptait, même les oiseaux, pour un demi-centime, sont dans la main de Dieu, vos cheveux sont comptés des myriades de fois plus que les oiseaux. Et chacun de vos cheveux est compté. Chacun de vos cheveux est compté, ça veut dire chacun de vos actes de vie contemplative pure est compté. Chacun de vos cheveux est compté. À chaque fois que vous faites un acte de vie contemplative pure, dans le principe de la Créateur de Dieu, dans le Saint des Saints, et dans les espaces sans limite et sans fin précisément de la nature humaine, s'y déployant. Lorsque dans l'incarnation de votre personne relevée de la déchéance, vous faites un acte de vie contemplative pure, c'est-à-dire dans le Verbe de Dieu, c'est la lumière divine de Dieu que vous contemplez, et avec elle vous contemplez le Père et l'Esprit Saint, et vous contemplez aussi l'Église, vous contemplez aussi le corps spirituel du Christ, le corps eucharistique du Christ, le cœur et le corps et le sang eucharistique du Christ, qui brûle de l'hypostase de l'acte pur du Saint-Esprit. Chacun de ces actes de contemplation pure est compté par Dieu pour le glorifier dans la glorification éternelle de sa propre gloire. Pas un seul de vos cheveux, tous vos actes de vie contemplative. On a aujourd'hui l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, plus 5, plus 5. C'est vraiment ce passage-là qu'il faut se rappeler, qu'on doit tous connaître par cœur, et qui indique que le péché originel... C'est ça qui explique tout. Dieu n'a pas voulu que la nature humaine soit créée à son image, sa ressemblance, sans la grâce surnaturelle, sans la transformation surnaturelle jusqu'à la perfection des temps. La perfection des temps, c'est quand le temps explose, disparaît, est assumé et devient un instant éternel, devient l'instant éternel et intime de Dieu. Les hommes n'ont pas été créés du tout comme les oiseaux, comme un cri de Dieu criant lui-même en lui-même sa propre gloire. Voilà, et si le péché originel est venu à cause d'un seul homme, chapitre 5 de l'Épître aux Romains, verset 5, alors effectivement, ce n'est pas la vie de Dieu, ni créatrice de Dieu, la vie éternelle de Dieu, la vie concrète de Dieu, la vie dans la chair, faisant qu'un voile entre lui et nous, qui va dominer la mort, du coup c'est répandu partout, le mal, qui sommes-nous pour nous détacher comme ça du commandement de Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta chair, de toutes tes forces, de toute ta mémoire. Le péché originel est la seule explication de la science, du réel, de notre nature humaine, et aussi de tout ce qui est créé, puisque tout a été créé en fonction de ce centre de l'univers, puisque le centre de l'univers, c'est la créateur de Dieu, dans Dieu lui-même, puisque lui-même a assumé, c'est un créateur de Dieu, dans notre propre nature humaine. Alors en un seul homme, la grâce qui se répand dans la multitude des hommes est incomparable par rapport à la détresse même que le péché originel a introduit. Ça, c'est le verset 15, la grâce de l'Épître aux Romains. Voilà, il y a une méditation que dans Saint-Irénée, parce que je crois que un petit peu chaque dimanche, là, on va essayer de trouver un petit passage. Saint-Irénée à propos du royaume de Dieu qui va se répandre et se répandre, se surabonder jusque dans la matière de la première résurrection annoncée par le chapitre 20 de l'Apocalypse, dès cette terre, dès ce siècle. Et oui, celui qui a créé l'homme au commencement, chapitre 15 du cinquième livre de Saint-Irénée, que celui qui a créé l'homme au commencement lui a promis la seconde naissance après sa dissolution dans la terre. Isaïe en fait foi lorsqu'il dit « les morts ressusciteront ». Et ceux qui sont dans les tombeaux se lèvent, et ceux qui sont dans la terre se réjouiront. Car la rosée qui vient de toi est pour eux une guérison. Je vous consolerai, et la main du Seigneur se fera connaître à ceux qui l'honorent. Oui, la résurrection dans Saint-Irénée est proclamée pour les temps, pour se confronter au temps de l'Antéchrist. C'est au chapitre 33 du cinquième livre qu'il y a ce passage, après avoir expliqué qu'au temps de l'Antéchrist, des immenses tribulations, la Jérusalem de la grâce permettra aux élus de connaître la première résurrection, le renouvellement de la face de la terre. Sans aucun doute, c'est dans cet héritage de la terre nouvelle que le Christ va venir boire avec nous le fruit de la vigne. C'est-à-dire, le fruit de la vigne, ça veut dire donc le fruit de tout l'amour, de la charité et des mérites de la foi de l'Église tout entière arrivée à son accomplissement. Donc sans aucun doute, le Christ a dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de cette vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Sans aucun doute, c'est dans l'héritage de la terre qu'il le boira dans ce siècle, de cette terre que lui-même renouvellera et rétablira dans son état premier pour le service de la gloire des enfants de Dieu. Selon ce que dit David, il renouvellera la face de la terre. Psaume 103. En promettant d'y boire du fruit de la vigne avec ses disciples, il a fait connaître ces deux choses. Il a fait connaître deux choses. L'héritage de la terre, en lequel sera bu le fruit nouveau de la vigne, et la résurrection corporelle de ses disciples, parce que la chair qui ressuscitera alors dans une condition nouvelle est aussi celle-là même qui aura part à la coupe nouvelle. Ce n'est pas en effet alors qu'il serait dans un lieu supérieur, supra-céleste, avec ses disciples que le Seigneur peut être conçu comme buvant du fruit de la vigne. Et ce ne sont pas davantage des êtres dépourvus de chair qui pourraient en boire, car la boisson tirée de la vigne a trait à la chair et non pas au spirituel de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur disait, lorsque tu donnes un dîner, n'invite pas les riches, mais invite les estropiés, les aveugles, les pauvres. Quiconque aura quitté champ, maison, parents, frères, ou enfants à cause de moi, recevra le centuple dès ce siècle, et on le recevra dans ce siècle. C'est ce que les prêtres qui ont vu Saint Jean, le disciple du Seigneur, se souviennent d'avoir entendu de lui, lorsqu'il évoquait l'enseignement du Seigneur relatif en ces temps-là. Voici donc les paroles du Seigneur, il viendra des jours où les vignes croîtront et qui auront chacune 10 000 ceps, et sur chaque cep 10 000 branches, et sur chaque branche 10 000 bourgeons, et sur chaque bourgeon 10 000 grappes, et sur chaque grappe 10 000 grains, et chaque grain pressé donnera 25 cuves de vin, 5 fois 5, c'est 5 à la puissance du Verbe de Dieu, Marie, dans sa maternité divine et glorieuse à la puissance du Verbe de Dieu. Et lorsque l'un des saints cueillera une grappe, une autre grappe lui criera « Je suis meilleur, cueille-moi, aime-moi et par moi bénis le Seigneur. » De même, le grain de blé produira 10 000 épis. Chaque épi aura 10 000 grains et chaque grain donnera 5 tonnes de belle farine. Et il en sera de même, toute proportion gardée pour les autres fruits, pour les semences et pour l'herbe. Et tous les animaux usant de cette nourriture qu'ils recevront de la terre vivront en paix et en harmonie les uns avec les autres et seront pleinement soumis aux hommes. Voilà ce que le disciple, auditeur de Saint Jean, familier de Polycarpe, homme vénérable, atteste par écrit dans le 4e de ses livres. Et il ajoute, tout cela est croyable pour ceux qui ont la foi. Car poursuit-il, comme Judas le traître demeurait incrédule, demandait comment Dieu pourrait-il, où trouverait-il la puissance de créer de tels fruits? Le Seigneur lui-même lui répondit, c'est ceux-là qui le verront, qui vivront jusqu'à ce temps. Ainsi, en effet, les temps dont Isaïe le prophète a parlé lorsqu'il disait « Le loup paîtra avec l'agneau, le léopard reposera avec le chevreau, le veau, le taureau et le lion paîtront ensemble, et un petit enfant les conduira. Le bœuf et l'ours paîtront ensemble, et leurs petits seront ensemble, le lion, comme le bœuf mangera de la paille. » L'enfant en bas âge mettra sa main dans le trou du cobra et dans le gîte des petits de la vipère et ils ne feront pas de mal et ils ne pourront plus faire périr personne sur ma montagne sainte. Alors, loup et agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le serpent mangera de la terre en guise de pain et ils ne feront ni mal ni dommage sur ma montagne sainte, dit le Seigneur. Chapitre 34. Isaïe lui-même annonce clairement qu'en ce temps-là, une joie de cette sorte aura lieu à la résurrection des justes. Dans ce temps-là, dans ce temps de la résurrection des justes. Lorsqu'il dit « Les morts ressusciteront, ceux qui sont dans les tombeaux se lèveront et ceux qui sont dans la terre se réjouiront, car la rosée qui vient de toi est pour eux une guérison. » Ézéchiel le confirme. « Voici que je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux. » Et je vous introduirai dans la terre d'Israël. Alors vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, quand je ferai sortir des tombeaux mon peuple. Je mettrai mon Esprit Saint en vous, et vous vivrez. Et je vous établirai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Et le même prophète dit, voici ce que dit le Seigneur, je rassemblerai Israël d'entre toutes les nations parmi lesquelles ils ont été dispersés. Je me sanctifierai au-dedans d'eux, aux yeux des peuples, des multitudes des nations, et ils habiteront sur leur terre que j'ai donnée à Jacob, mon serviteur. Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons, planteront des vignes, quand j'exercerai mon premier jugement sur tous ceux qui les auront méprisés, sur ceux de leurs alentours. Alors ils sauront que je suis Adonai Elohim, que je suis Seigneur, leur Dieu et le Dieu de leur Père. C'est l'Église qui est la postérité d'Abraham. Afin que nous sachions tout cela se réalisera dans la nouvelle alliance qui de toutes les nations rassemble ceux qui sont sauvés, suscitant ainsi à partir des pierres des fils à Abraham. On dira, le Seigneur est vivant, lui qui a ramené les fils d'Israël du pays du Septentrion et de toutes les contrées où ils avaient été chassés, et qui va les rétablir sur leur terre, celle qu'il avait donnée à leur père. Chapitre 34, quatrième paragraphe. Isaïe dit encore au sujet de cette Jérusalem et de celui qui y régnera, « Voici ce que dit le Seigneur, heureux, celui qui a une postérité dans Sion. » Et une parenté dans Jérusalem. Isaïe 31, verset 31. Voici qu'un roi juste régnera, et les princes gouverneront avec droiture. Et à propos de cette reconstruction, il dit, voici que je te prépare pour pierre de l'escarboucle et pour fondement du saphir. Je ferai tes créneaux de jaspe, tes portes de cristal et ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront enseignés par le Seigneur, tes enfants seront dans une grande paix. Et tu seras édifié dans la justice. Voici que je crée Jérusalem pour l'allégresse et mon peuple pour la joie. Je serai dans l'allégresse au sujet de Jérusalem et dans la joie au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus désormais le bruit des lamentations, ni le bruit des clameurs. Il n'y aura plus là d'hommes frappés d'une mort prématurée, ni de vieillards qui n'accomplissent pas son temps. Ils bâtiront des maisons et eux-mêmes les habiteront. Ils planteront des vignes et eux-mêmes en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas pour d'autres, pour que d'autres y habitent. Ils ne planteront pas pour que d'autres mangent. Car les jours de mon peuple là seront comme les jours de l'arbre de vie. Ils jouiront des ouvrages de leurs mains. Eh bien, toutes les prophéties de ce genre se rapportent sans aucune contestation à la résurrection des justes, qui aura lieu après l'avènement de l'Antéchrist, qui verra le jour de l'anéantissement des nations soumises à son autorité. Alors les justes ressusciteront pour régner sur la terre, grandissant à la suite de l'apparition du Seigneur, ils s'accoutumeront grâce à lui à saisir la gloire du Père. Et dans ce royaume, dans ce siècle, ils accéderont au commerce des saints anges, ainsi qu'à la communion et à l'union avec les réalités spirituelles. Eh bien, tous ceux que le Seigneur trouvera dans leur chair, dans l'attente des cieux après avoir enduré la tribulation et après avoir échappé aux mains de l'impie, ce sont eux, ceux dont le prophète a dit « Heureux ceux qui ont été laissés » et se multiplieront sur la terre. Ils se multiplieront sur la terre pour qu'ils soient gouvernés par les saints et servent et puissent servir à Jérusalem. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, regarde vers l'Orient. Vois tes fils rassemblés du couchant au levant par la parole du Saint, se réjouissant de ce que Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu te les ramène portés avec honneur comme un trône royal. Car Dieu a ordonné de s'abaisser, toute montagne élevée aux collines éternelles et aux vallées de se combler pour aplanir la terre, afin que Israël, le véritable, marche en sécurité sous la gloire de Dieu. Eh bien, ces événements, chapitre 35, ne sauraient se situer dans les lieux supracélestes, car Dieu vient de dire, le prophète montrera sa splendeur à toute la terre qui est sous le ciel. Ils se produiront au temps du royaume, lorsque la terre aura été renouvelée par le Christ, et que Jérusalem aura été rétablie et rebâtie sur le modèle de la Jérusalem d'en haut. On continuera à lire ensuite. Passage chapitre 35. Parce qu'après qui est le royaume des justes, la Jérusalem d'en haut viendra, puis ensuite le royaume du Père.